Et bonsoir. Putain. Et... Allô, allô. Ah, je m'entends, je m'entends. Ah.
Julien.
Ah oui, ça y est, je suis enfin à l'antenne. Toi, t'as terminé ? Ah bon, bah très bien, alors je passe de l'autre côté.
Alors, ce soir, de quoi on va parler ? T'as parlé du fil ? Ah, on était complètement à la bourre. Ce soir, on va parler, eh ben, on aura des brèves, on va parler bien sûr des infos de retraite, on va parler de Laurent, comment il s'appelle ? T'as révisé son nom ?
Pietraszewski.
Ouais, bravo.
On m'entend ?
Oui, on t'entend. Qui remplace Delevoye. On va parler des coupures de courant. On va parler
des prochains rendez-vous à Lyon dans le cadre de ce dans le cadre du mouvement anti-réforme des retraites.
On aura une saloperie judiciaire qui se nomme l'interdiction de séjour anti-manif ou la justice sans défense.
Et puis enfin on parlera de choses qui n'ont finalement rien à voir ni avec le mouvement contre la réforme des retraites ni avec les manifestations. Et donc figurez-vous que la métropole de Lyon a voté en fanfare, enfin en petite fanfare quand même, finalement ils s'en sont pas tant vantés que ça, la gratuité des transports. Vous verrez détails dans cette édition, c'est assez intéressant.
Ensuite on finira ce Canu Info par l'ordre des médecins qui se prononce pour la levée du secret médical dans les cas de violence conjugale.
Canu Info du mercredi.
Et on va commencer par quelques brèves. Alors, figurez-vous que le président Emmanuel Macron lui-même est, ouvrez les guillemets, disposé à améliorer le projet de réforme des retraites et envisage notamment une amélioration.
Abrogation.
Annulation. Amélioration possible autour de l'âge pivot de départ à la retraite. C'est ce qu'a indiqué son entourage ce matin, quelques heures avant de nouvelles concertations à Matignon avec les partenaires sociaux.
Mais quelle surprise !
Mais c'est pas vrai ! Non. Incroyable ! Eh ben si, j'ai trouvé ça dans Le Monde tout à l'heure, qui semble même considérer que c'est une info. Alors que depuis le départ, tout le monde, à part la CFDT bien sûr, a compris que cette histoire de 64 ans, c'est le gros point fait pour scandaliser tout le monde, que Macron n'a mis en avant dès le départ que pour mieux le lâcher par la suite dans le cadre de négociations et faire passer tout le reste des saloperies qu'il nous propose pour finalement acceptable. Alors depuis quelques jours déjà, les différents ministres et maintenant donc le président lui-même crient sur tous les toits que c'est possible de négocier là-dessus. Allez, allez, voilà, franchement, allez, allez, on reparle, s'il vous plaît, on parle des 64 ans, on parle de l'âge pivot des 64 ans. Le problème, c'est que...
Dès le lendemain du discours, évidemment, le jeudi, Bruno Le Maire l'a annoncé.
On peut en parler. S'il vous plaît, venez nous demander de le baisser. Comme ça, on le baissera et après, tout ira bien. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde est bien trop vénère maintenant pour parler de ce truc-là. C'était la brève numéro 1. La numéro 2. Grève. Alors c'est aussi un titre du Monde. Jusqu'à Noël, les chauffeurs d'autocars sont autorisés à rouler plus longtemps. Alors attends, tu vois, le gouvernement a pris cette décision pour contourner les perturbations liées au mouvement social national contre les retraites, bien sûr. Entre le 18 et le 24 décembre, la durée maximale de conduite des chauffeurs de transport routier de voyageurs, donc les chauffeurs de bus, sera allongée dans la limite de 2 heures par jour et dans celle de 6 heures par semaine. En temps normal, la durée quotidienne de conduite effective dans le transport routier de personnes ne peut excéder 9 heures pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes. Donc les chauffeurs de bus, ils n'ont pas le droit de rouler plus de 9 heures par 24 heures, ce qui est quand même déjà un peu balèze. Mais et on imagine aussi que cette durée maximale de 9 heures, quand quelqu'un a pondu ce règlement, c'était pas... juste pour empêcher les chauffeurs qui adoraient conduire de conduire plus longtemps, c'est qu'on considère que les chauffeurs sont certainement moins attentifs après 9 heures sur la route, tu m'étonnes, au point que ça devient sans doute dangereux. Mais bon, du 18 au 24 décembre, ça sera donc 11 heures plutôt que 9, et donc sans doute dangereux. Mais en même temps, comme c'est la période juste avant Noël, si on se crache en autocar, de toute façon, on va directement au paradis, alors finalement, c'est un mal pour un bien. Attends. C'était la brève numéro 2, je fais encore la numéro 3. Dans la foulée, et après tu mets un petit ding 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 là. Ah. La dernière brève est très très brève. Le moteur nucléaire du sous-marin Suffren mis en route à Cherbourg, c'était aujourd'hui. Premier né d'une série de 6, le sous-marin d'attaque de nouvelle génération devra naviguer jusqu'en 2050. Plus de fric, semble-t-il, pour financer les retraites, à ce qui paraît. Mais pour acheter des armes de destruction massive, là, on trouve toujours des sous.
Canu Info. Du mercredi.
Et on parle retraite, on continue à parler encore et toujours retraite, et les syndicats à l'origine de la mobilisation contre la réforme des retraites ont décidé la poursuite du mouvement par des, alors pour le coup plus de grosses journées de mobilisation, mais des actions locales le 19 et jusqu'à fin décembre. L'absence bien sûr évidemment de trêve jusqu'au retrait du projet du gouvernement. Non, on va pas s'arrêter de faire la grève pour Noël, pour faire plaisir aux familles et aux machins et aux trucs. Les familles, elles sont souvent dans la lutte d'ailleurs, et les gens sont souvent plus vénères contre le gouvernement que contre les grévistes.
Sauf la CFDT qui a bien sûr appelé à une trêve pour Noël. Parce que,
en fait, pour la plupart des infos qu'on fait, on peut dire sauf la CFDT.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, info retraite, hashtag sauf la CFDT.
C'est un ultimatum à commenter à l'issue de la du communiqué, non, à l'issue pardon, de plus de 3 heures de réunion. Benoît Testu de la FSU, pour qui ce n'était pas complètement mûr pour fixer une nouvelle date de mobilisation nationale dès ce soir. Donc pour l'instant pas de mobilisation nationale, mais des actions locales. Pour l'instant, nous appelons à multiplier les mobilisations locales plutôt, a expliqué un bonhomme, un certain Éric Benel de Solidaire, tandis que Catherine Perret de la CGT estimait qu'il fallait privilégier la proximité pour favoriser l'élargissement de la participation. Voilà, c'est un peu dans ce cadre qu'on en est maintenant. Et alors dans ce cadre, puisque du coup l'idée c'est de faire dans le local, qu'est-ce qu'on fait à Lyon demain, après-demain et après-après-demain? C'est détaillé sur Rebellion, c'est là que j'ai chopé les infos que je vais vous raconter maintenant. Demain, pour les plus lève-tôt, piquet de grève des cheminots et cheminotes à Perrache et Pardieu.
Parce que par exemple, c'est ça, je trouve dans les petits argumentaires sur les fêtes pour certains et certaines d'entre nous approchent, et on risque a priori de se retrouver en famille et coincé un peu à table entre des personnes avec qui on partage pas les mêmes idées politiques, et par exemple les gens ont souvent tendance à oublier qu'une grève ça veut quand même dire des pertes de salaire et des piquets à tenir, et ça veut dire que par exemple en période de fête ça veut pas forcément dire que par exemple les gens vont être super contents et vont pouvoir passer les fêtes en famille s'ils sont grévistes. Non, ça veut aussi vouloir dire qu'ils auront moins de thunes pour les fêtes et qu'ils seront aussi, il y a des chances qu'ils soient mobilisés sur des piquets ou dans des endroits de lutte.
Ça veut généralement pas dire que les gens font la grasse matinée, par exemple.
C'est ça.
Et donc voilà, 6h demain, piquet de grève à Perrache et à Pardieu pour les cheminots. 7h30, blocage des lycées, de différents lycées. On n'aura pas des listes, mais de toute façon, ça s'improvise un petit peu au coup par coup.
Coup par coup, j'espère que tu ne parles pas de tir de la BAC sur des lycéens et lycéennes.
11h30, manifestation interprofessionnelle. Ça, c'est donc demain la manif interprofessionnelle, départ au Breteau. Et alors, si vous êtes tenté pour rejoindre particulièrement le cortège féministe, le rendez-vous est à l'angle rue Vauban, place Jules Ferry, vers le pont de chemin de fer. Demain à 15h, Assemblée Générale Départementale Éducation à la Bourse de Travail, du Travail, pardon. À 18h, Assemblée Générale Féministe, c'est aussi à la Bourse du Travail. 18h30, 19h30, piquet de grève, culture au point, ça c'est les cultureux, et ça se passera devant le TNP à Villeurbanne. 19h, Canu Info. Vendredi, 7h30, blocage des lycées, 19h, Canu Info. Et samedi, 16h-18h, piquet de grève des cultureux, c'est devant la bibliothèque du Bachu. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à faire les prochains jours. Si vous n'avez pas pris des notes, vous recherchez ça sur rebellion.info.
Canu Info.
Et là, Jean-Paul Delevoye, vous savez, le bonhomme, celui qui, en toute bonne foi, avait complètement oublié de déclarer toutes les activités de sa vie sur sa fiche où il était censé tout déclarer. Une personne qui peut recevoir 10 000 euros sur son compte par mois sans vraiment s'en souvenir ou y faire attention. Bon, bref, il a quand même fini par devoir dégager devant l'évidence de où il en était. Et il est remplacé depuis aujourd'hui par le député La République En Marche du Nord, Laurent Pietraszewski. Donc à son poste de secrétaire d'État en charge des retraites, mais c'est-à-dire principalement celui qui va négocier avec les syndicats. Alors, qui est Laurent Pietraszewski? Il m'a dit donc, vous allez voir, c'est un sacré bonhomme. Il bénéficie d'une solide expérience professionnelle dans le domaine des relations sociales et ressources humaines, a expliqué l'entourage du chef de l'État, en qualifiant le nouveau membre du gouvernement de macroniste de la première heure, fin connaisseur des questions sociales, on va revenir dessus en détail, et du système des retraites. C'est un parlementaire expérimenté et légitime pour occuper cette fonction exigeante et technique. Élu député La République En Marche du Nord en 2017, après une carrière en ressources humaines, il est spécialiste du dossier des retraites à l'Assemblée. Il a aussi été le rapporteur de la loi travail quand même en 2017.
Ah.
Il a déjà un petit passif en termes de caste sociale. Novice en politique jusqu'à son adhésion à En Marche en 2016.
Ah, c'est ce qu'on préfère.
Oui, tout à fait. Surtout que lui, avant de faire de la politique, qu'est-ce qu'il faisait? Il a une carrière dans le groupe de grande distribution Auchan, dans des postes de responsable des ressources humaines. Et alors,
les meilleurs.
Figurez-vous que, du coup, dans un article de 20 minutes, c'est un gars de la CFDT qui nous dit quelques mots de ce Laurent Pietraszewski, de la CFDT, de Auchan. Ancien directeur des ressources humaines des magasins du groupe Auchan, Laurent Pietraszewski, nommé aujourd'hui secrétaire d'État en charge des retraites, a laissé un mauvais souvenir aux délégués CFDT qui l'ont côtoyé dans le Nord-Pas-de-Calais. Aux délégués CFDT, hein. C'est-à-dire, c'est eux qui normalement, c'est eux qui adoraient Jean-Paul Delevoye par exemple. Et donc là, le gars de la CFDT nous explique, il avait fait mettre en garde à vue une déléguée syndicale qu'il soupçonnait d'avoir donné un petit pain à une employée de la galerie marchande, comme si elle l'avait volé. Garde à vue, un petit pain. Donc ce que nous explique ce Guy Laplatine, délégué syndical CFDT du groupe Auchan Retaille France. C'était complètement disproportionné. Ah ouais?
Même la CFDT.
Il n'a jamais pu prouver, d'ailleurs, qu'elle avait donné ce petit pain. Et de fait, c'était pas vrai. Elle a quand même fait de la garde à vue. Après Béthune, Laurent Pietraszewski a notamment travaillé plusieurs années pour l'hypermarché Auchan de Roncq, dans le Nord, près de Lille. Luc Fourier, 57 ans, dont 37 au sein du groupe, et lui aussi délégué syndical CFDT, se souvient d'un homme carriériste, dit-il, qui licenciait à tout va. C'est un homme hypocrite et méchant. C'est donc pas moi qui le dis, c'est donc bien ce délégué CFDT. C'est donc ce Laurent Pietraszewski qui est envoyé pour remplacer Jean-Paul Delevoye. C'est-à-dire que si déjà la CFDT lui en veut, alors là, c'est vraiment très 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 mal barré pour votre fucking réforme des retraites. Bon, après, il a arrêté Auchan et apparemment il a réussi à se faire licencier économique. Pile au moment où il devenait député, c'est cool pour lui. Il a quand même touché à ce moment-là 71 872 euros d'indemnité de licenciement. Sa déclaration d'intérêt et d'activité publiée sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique indique cette somme perçue en août-septembre 2019. Sans parler donc de ce que sa déclaration n'indique pas. Et qu'on découvrira peut-être un jour ou l'autre, puisqu'on dirait que les ministres de ce gouvernement, qui s'étaient fait élire, on se souvient, sur une image de main propre, ces ministres-là valent largement les autres en termes de fraudes diverses et variées.
Canu Info. Du mercredi.
Eh oui, c'est à moi. on va parler des actions un peu qui ont eu lieu et notamment des coupures de courant. Principalement entre Lyon et Villeurbanne. Et par exemple, hier, entre Lyon, Villeurbanne et Caluire, hier matin, entre 10h et 10h30, c'est pas moins de 40 000 foyers qui se sont retrouvés sans ELEC. Le métro B a été perturbé et ne pouvait rouler qu'entre Pardieu et Oullins, ce qui représente quand même une bonne partie de sa ligne. C'est la CGT-RTE qui a revendiqué l'action et promet des coupures plus massives si le gouvernement ne retire pas sa réforme. Alors là, j'ai eu beau chercher, les articles de presse ne disaient pas du tout quelle était la cible de cette coupure. Partout en France, les coupures ciblées se multiplient avec donc parfois des coupures collatérales comme là, on imagine, ces 40 000 foyers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'a priori, les grévistes ne visent pas votre petit chez vous, dites-vous le bien. De toute façon, ils coupent en général entre une à deux heures, voire une demi-heure, comme hier matin. Souvent aux horaires où vous n'êtes pas chez vous. Bref, en gros, vous en avez rien à foutre. Le but, c'est souvent les lieux symboliques, zones commerciales, mairies, universités ou autres, pour qui une heure de coupure, ça peut foutre la pagaille. C'est-à-dire que si vous coupez en ce moment, par exemple, samedi, on sait pas, hein, si jamais ils avaient pas eu l'idée, mais de couper entre 10h et midi l'électricité de La Part-Dieu, par exemple, du centre commercial de La Part-Dieu, et ben on imagine à peu près le bordel que ça peut être. Voilà. Donc, la ministre des Transports et de l'Énergie, Elisabeth Borne, a qualifié ces actes d'actes graves, laissant un peu penser, parfois, que, par exemple, si un hôpital a été touché, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques. Sauf que si on nous prend pas pour des abrutis, on sait très bien qu'un hôpital peut absorber une coupure de deux heures, qu'il y a des générateurs, que la plupart de ces trucs sont surbatiques. Bref, c'est possible. Alors soit on nous prend pour des cons, soit si vraiment c'est un danger réel que les hôpitaux ne peuvent pas subir une coupure d'électricité de deux heures, faudrait peut-être qu'elle aille voir sa voisine, la ministre de la Santé, et lui dire que quand même il y a un gros problème et lui demander des comptes. Pour l'instant, A3 par exemple, en gros il y a eu un article dans Le Parisien qui a un peu cherché par tous les moyens d'avoir des trucs dramatiques à se mettre sous la dent. A3, un restaurateur d'une chaîne dont on ne signe pas le nom, mais donc bref, une grosse chaîne de restauration, a eu peur de perdre ses réserves dans les frigos. On en est un peu du drame, et a dû dire à ses clients et clientes peut-être aujourd'hui on va pas pouvoir vous servir tout de suite, peut-être vous devriez aller dans l'autre magasin de notre chaîne qui est juste là-bas. Donc voilà.
Le drame.
Ah, attention, on a failli frôler le drame. Et cette fois-ci, c'est un religieux à Lyon. Oui, bon, on est à Lyon, on a les vedettes qu'on mérite, hein. Qui a tweeté qu'il a eu peur pour un frère à lui, de sa congrégation religieuse, de 91 ans, qui est sous assistance respiratoire. Bon, alors là, le mec a paniqué, a vu qu'il y avait une coupure d'électricité. Visiblement, bon, il a pas dû être informé par ses médecins, ou alors il a oublié, peut-être à 80 ans, ça peut arriver, une assistance respiratoire, ça peut tenir. D'ailleurs, il le dit, ce mec-là, que ça peut tenir deux heures en autonomie. Et du coup, en fait, le mec, il dit un peu des trucs de manière dramatique, comme si la vie du type était en jeu. Sauf qu'en fait, il a dit, au moment où on était en train de se dire qu'on allait l'amener à l'hôpital, ils ont remis l'électricité. Donc, en fait, le truc le plus chiant qu'elle ait pour lui, et je comprends qu'à 80 ans, ça peut être chiant, bref, c'était qu'on allait l'amener à l'hôpital pour qu'il puisse continuer à ce truc-là. Donc, ça va, quoi. Ensuite, à Lyon, il y a la Cité Internationale où les feux tricolores ne marchaient plus. Julien témoigne. Il a été surpris au volant. Tous les feux de la circulation se sont éteints et tous les commerces du cours Vuitton aussi. Ah, pas mal. C'est à peu près la seule conséquence. À Aix-en-Provence, une personne qui était dans un restaurant et tout s'est arrêté durant une heure. En fait, c'est des situations où au mieux c'est pas grave, au pire c'est un peu rigolo parce que quand même ça crée un peu des trucs avec les gens qu'il y a autour. Le Parisien est quand même une fille a failli. Mais failli se faire renverser parce qu'il n'y avait plus de feu de circulation et une personne a pilé, heureusement, mais elle a eu super peur. Donc c'est-à-dire que c'est des trucs qui arrivent
quoi,
tout le temps.
De la CGT,
ouais, voilà.
Un truc de dingue.
Et quand même, on rappelle que en règle générale, quand il y a plus de feu de circulation, en fait, les gens roulent plus doucement, ralentissent à fond. Enfin, je veux dire, à moins qu'il y ait un taré, mais je veux dire, le même taré aurait conduit n'importe comment, qu'il y ait des feux ou pas. Bref, voilà. Et aussi une coupure, un témoignage d'une personne là, un peu de la ville d'Aix, où on a frôlé quand même la catastrophe à cause de la coupure. Une de ses amies en troisième année de droit est resté coincé une demi-heure dans un ascenseur et est arrivé en retard à ses partiels. Et ça, quand même, je veux dire, si la CGT et si les grévistes n'ont pas conscience de la galère dans laquelle ils mettent les gens, franchement, c'est scandaleux. Donc voilà. Donc voilà. Et ben, amis de la CGT Énergie, si vous nous écoutez, vous pouvez nous couper les lecs. Si ça va couper l'électricité de l'hôtel de ville qui est juste à côté, franchement, on sera super contents.
Et certains d'entre nous dans ce studio, par exemple, habitent à la Cambrousse. Et disons que avec des histoires aussi un peu de privatisation par-ci, de réduction des coûts par-là, ça fait aussi que par exemple cet automne, dès qu'il tombe 3 cm de neige, dès que le vent dépasse quelques dizaines de kilomètres heure, eh ben il y a aussi des coupures d'électricité qui pour le coup n'ont rien à voir avec la CGT ou avec qui que ce soit. Et ma foi, dans ces cas-là, on parle moins de drames divers et variés et extrêmement terribles et tout ça. Ça arrive qu'on ait 2 heures, 3 heures, une demi-journée, 36 heures dans un village que je connais bien, ou même plusieurs jours dans d'autres villages à d'autres endroits. Et ma foi, ça, pour le coup, c'est quand même bien plus dû à des histoires de réduction des coûts et de méga-libéralisme que à la CGT.
Canu Info. Du mercredi.
Alors, comment on prépare les infos à la dernière seconde avant le Canu Info ? J'ai pas réussi à joindre quelqu'un de la Caisse de solidarité de Lyon pour savoir si l'histoire dont je vais parler maintenant, qui en réalité, c'est je vais à peu près vous lire un article de parislutte.info sur ces histoires d'interdiction de manifs pendant 6 mois et qui en fait se font sous forme d'interdiction du territoire. Si quelqu'un de la Caisse de solidarité nous écoute et a envie de passer un petit coup de fil pour dire si c'est quelque chose qui se produit à Lyon, un peu, beaucoup ou jamais, ça pourrait nous faire un petit complément d'infos. Mais en tout cas, voilà. Donc 78 39 18 15, si vous êtes de la Caisse de Sceaux et que vous voulez nous apporter la précision. En tout cas, voilà. L'idée, c'est que... c'est donc des choses qui se passent apparemment, qui se passent beaucoup à Paris. Et l'article nous dit ça, nous dit, vous venez de vous taper une interpellation, une garde à vue, d'au moins 24 heures. On vous emmène au palais de justice pour être jugé. Mais finalement, coup de bol, vous sortez avec un rappel à la loi, assorti d'une interdiction de séjour. Et ben, en fait, c'est une mesure scélérate à laquelle on peut refuser de se soumettre. Depuis quelques mois, de nombreuses personnes arrêtées dans le cadre d'un mouvement social ou d'une simple manifestation pensent avoir passé un mauvais moment entre les mains de la machine répressive, mais que ça serait tout. Interpellation, garde à vue, déferment au palais de justice, mais finalement, ouf, elles sortent libres. Entre guillemets quand même. Fini les emmerdes, juste un petit rappel à la loi. Mais en fait, parfois il y a un petit ajout. Ce rappel à la loi s'accompagne de plus en plus d'une sympathique interdiction de paraître dans une ville entière, et ça peut aller jusqu'à 6 mois. Cette contrainte de liberté surveillée s'abat de manière industrielle depuis que la loi a changé en mars 2019. La loi en question, c'est donc la loi de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, elle est toujours prompte à protéger les pratiques d'arrestation préventive des préfets qui, eux, sont aux ordres de Castaner. Et donc, c'est la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 qui comporte un 7e point, un nouveau pouvoir confié au seul procureur et à ses sbires. Et donc, ce 7e point dit précisément « Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître » pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. Cette loi prévoit des alternatives à la poursuite, par ailleurs sur d'autres points. En fait, toutes ces histoires d'alternatives à la poursuite, c'est des gadgets de procédure qui visent à désengorger les tribunaux pour des faits mineurs. Et donc ce sont toutes les histoires de CRPC, les histoires de plaider coupable, reconnaissance de culpabilité, autres transactions, médiation, composition pénale. En fait, avec toutes ces histoires, c'est toujours des trucs où il y a moins de procès, certes, mais en même temps, il y a quand même toujours plus de condamnations. Parce que le fait de faire tous ces trucs-là sans passer par un procès, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pas d'audience publique, pas de soutien, pas d'accès au dossier pénal et souvent pas d'avocat. Tout bénef pour une justice d'abattage. C'est-à-dire que vous prenez dans la gueule des mesures administratives en réalité qui sont pas qui font pas du tout l'objet d'une procédure contradictoire. Et donc pour revenir au rappel à la loi punitif en liberté surveillée, Pas difficile de comprendre le stratagème. L'idée, c'est bien d'inciter les gens à rester tranquilles, distiller la crainte d'exprimer sa colère en sortant dans la rue. La vérification d'identité de 4 heures, des fois plus. La garde à vue de 24 heures, de voire de 48 heures, sont devenus des moyens de refouler des gens des manifestations. Le rappel à la loi avec interdiction de séjour, c'est une autre cartouche pour dissuader l'exercice du droit de protester. Dans ce cas de figure, on est donc condamné finalement, puisque c'est, il s'agit quand même bien d'une peine, le fait de, enfin, ou en tout cas d'un truc qui est réellement handicapant, le fait de ne pas pouvoir aller dans un endroit pendant 6 mois, et l'endroit ça peut être la ville de Paris par exemple. On est condamné sans procès, sans procédure contradictoire, sans qu'on puisse connaître les faits exacts qui ont motivé l'arrestation. Et cerise pourrie sur le gâteau de merde, comme s'expriment joliment les auteurs de l'article, impossible de faire appel ou de refuser la mesure. Aucun recours possible, pas de procès, donc pas de cour d'appel non plus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour contrer cette fourberie ? Eh bien, tout simplement en ne la respectant pas. La loi dit précisément que le procureur peut demander l'interdiction de séjour. Et donc, c'est bien ça hein, qui est écrit, c'est demander à l'auteur des faits de ne pas paraître. Mais aucune peine n'est prévue si on refuse de se soumettre à cette demande, d'accéder à cette demande en réalité. Pour pas mal de juristes, cette mesure ne tient pas face au principe de procès équitable. En gros, si vous vous faites choper dans la zone interdite, manif ou pas, le procureur pourra juste réengager des poursuites à votre encontre. Et attention, pas des poursuites pour le fait d'être, de pas avoir respecté l'interdiction, puisqu'il ne s'agit pas d'une interdiction. En réalité, c'est bien d'une demande qu'il s'agit. C'est une demande que la loi permet et pas une interdiction. Et donc, si le procureur réengage des poursuites, c'est pour les premiers faits, ceux pour lesquels vous vous étiez fait arrêter. Là, il peut revenir dessus. Alors bien sûr, ne pas respecter cette demande, ça pourra rendre les juges plus vénères en cas de procès, mais a priori, vous ne devriez pas, puisque dans le premier cas, c'était juste un rappel à la loi, là, vous ne devriez pas risquer plus qu'un rappel à la loi qui n'aurait pas été assorti de la fameuse interdiction. Donc en fait, en réalité, vous risquez pas plus si vous accédez pas à cette demande. Et l'article se termine par un encouragement à refuser collectivement d'accéder à cette demande et donc à aller manifester avec d'autres gens qui se seraient retrouvés dans le même cas.
Canu Info.
Et ah voilà. Et bien voilà, donc voilà, ça y est, non, je pensais pas que c'était à moi décidément ce soir. Et c'est donc d'un coup d'éclat qu'on va parler que vient de faire la métropole, qui a voté à une très large majorité la délibération qui va permettre de rendre accessibles les TCL de manière gratuite à une partie de la population. Alors c'est un début, hein. Moi personnellement je pense qu'on va dans le bon sens. Cette mesure sera financée à 70% par la métropole et 30% par le Citral.
Bon, alors c'est bien. En partie nous quand on paye des impôts et en partie nous quand on paye des tickets de bus.
C'est ça. Et le Citral étant un syndicat mixte, c'est possible même que ce soit déjà un peu financé par les impôts. Bref, le problème, c'est que bien sûr, ce genre de mesures profitent un peu toujours aux mêmes. Et le problème avec ça, bah, c'est que c'est toujours un peu stigmatisant. Concrètement, comment ça va se passer ? Le dispositif devrait coûter 150 000 euros et devrait permettre de distribuer 50 000 passes journée gratuitement. Bon, pour cela, vous devez remplir une seule condition. Hein. Pour une fois, c'est assez simple. Il n'y a pas des dossiers à remplir et à réactualiser tout le temps. Bon, ne vous précipitez pas tout de suite sur tcl.fr. Pas besoin d'être à la CMU, ni au chômage, c'est ni au RSA.
C'est possible qu'une partie de nos auditeurs et auditrices ne soit pas éligible.
On ne sait pas encore. En tout cas, ni d'avoir le minimum vieillesse, ni être en situation de handicap. Non, ce pass sera réservé pour les touristes d'affaires venant à un congrès associatif international de plus de 1500 personnes. Associatif, on précise, ne voulant pas dire caritatif. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, des sociétés comme Sanofi ont des associations qui s'occupent, par exemple, de faire des congrès. Voilà. Pourquoi plus de 1500 personnes ? Bah parce que si vous organisez un petit congrès chez vous, il n'y a pas de raison en fait que vous bénéficiez de ce titre gratuit parce que vous faites pas partie des personnes les plus importantes que la ville de Lyon veut absolument attirer. Jusqu'ici, en fait, déjà, bon, voilà, on apprend ça, on lit un article, on se dit non, c'est pas possible. En plus de ça, on apprend, enfin en tout cas moi j'ai appris en lisant les articles, que jusqu'ici ces personnes-là bénéficiaient déjà d'une remise puisqu'ils payaient le pass journée 3 euros au lieu de, bah, pour vous et moi, hein, c'est-à-dire que si vous voulez vous déplacer une journée sur le réseau TCL, et ben ça vous coûte 6 euros par exemple. Pour personne, hein, c'est-à-dire pour aucune catégorie de la population lyonnaise, les TCL ne sont gratuits. Pour personne. Pour personne qui est tombé plus bas que terre financièrement, le Sitrel ne lui a accordé la gratuité. Il n'y a pas un putain de galérien ou galérienne pour qui on s'est dit « Oh putain, ce serait quand même pas mal de ne plus lui faire payer le transport, ça pourrait peut-être le dépanner un peu sur quelque chose. » quoi. Non, le Sitrel, depuis des années, lance des campagnes de pub ultra agressives envers les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas payer leur ticket. Les grilles tarifaires, c'est quoi pour les personnes les plus pauvres? C'est 9,20€ par mois. Par exemple, pour les bénéficiaires du RSA, mais si vous touchez par exemple un RSA majoré, c'est-à-dire que par exemple vous êtes une femme et que vous vous retrouvez mère célibataire, il y en a des tas. Et ben là, votre RSA augmente légèrement parce qu'en fait la CAF considère qu'en fait vous avez un môme, ça coûte du pognon, ça en rapporte pas. Donc on décide de dire bon bah en fait voilà, là ça va être la galère, on va vous dépanner un peu plus. Et bien sûr, et ben vous êtes exclu de ce tarif solidaire parce que ce tarif solidaire, il exclut les RSA majorés, hein. Donc on vous passe en tarif solidaire 2, et alors là on passe pas de 9,20€ à 10€, 12€, 13€, non là c'est 18,40€ par mois. Si on compare à un salarié par exemple, un salarié c'est 64€ pris en charge à 50%, donc on paye 32€ de notre poche, ça fait 14€ de différence avec une personne seule et un gamin à charge. Bon, alors bien sûr, cette mesure est quelque part symbolique. Hein. Ça va pas couler ou gréver le budget de la métropole. Ça concerne 50 000 tickets. Alors, ça précise pas si c'est parent, pas parent. Bref, on sait pas trop. Mais en fait, à qui on fait un cadeau? aux putain de gens qui vont à des congrès à Lyon et qui vont sûrement être défrayés par leur boîte, qui vont ou alors qui sont là pour décrocher des contrats, se faire des contacts. Bref, en tout cas, brasser du fric d'une manière ou d'une autre. On n'est pas à 3€. Ils sont pas à 3€ près, voire 6€, hein, comme tout le monde. On pourrait revenir à la base initiale de dire en fait vous allez payer 6€ comme tout le monde. Non, parce que la métropole de Kimmerfield là, qui est un peu moderne, qui se dit un peu plus moderne que Colomb, machin. Au final, il a quand même voulu montrer que Lyon est une ville attractive et sympa. Hein. C'était à faire un peu appel à tous ces gens pour dire venez voir ce qui se passe chez nous.
Il est en train de nous créer un appel d'air.
Ah, c'est un appel d'air de congrétistes, hein, qui vont se remplir le bide dans des restos. Et à eux, on décide donc de leur faire un cadeau. Hein. Aux autres, que dalle. Hein. C'est-à-dire qu'un ticket, une heure. C'est 1,90€, 2,20€ si on monte à bord dans un bus. À la base, c'était 2€ pour pas faire de bordel de monnaie au conducteur. Bon, ça a augmenté, c'est passé à 2,20€, parce que comme le ticket à la base, ça commençait à plus être trop rentable. Sauf qu'il y a quand même tout un tas d'endroits où si vous habitez en périphérie lyonnaise, et ben en fait, vous avez pas de distributeur au ticket. Et comme il n'y a pas forcément le métro, le tram, là où on voit toujours des bornes, et ben en fait, on se retrouve un peu à devoir payer 2,20€. Pour monter dans un bus si on n'a pas prévu. Bref, la journée pour tout le monde, c'est 6€. Bien sûr, si jamais vous vous posez la question, eh bien, le Sitrel va voter à une augmentation des tarifs, des abonnements au 1er janvier 2020. Allez, en gros, on va pas tous les faire, mais en gros, les abonnements, ils prennent 1€ par mois en plus, 20 centimes pour le tarif solidaire. Voilà, donc merci le Sitrel et la métropole.
Et l'Ordre des médecins a annoncé aujourd'hui qu'il se propose pour la levée du secret médical dans le cas de violence conjugale. Décidément, les femmes sont bien incapables de prendre des décisions pour elles-mêmes. Heureusement, les hommes de pouvoir veillent sur elles. Pas exactement pour les considérer comme majeurs et responsables, mais plus classiquement pour les protéger. L'Ordre des médecins s'est donc déclaré aujourd'hui favorable à la levée du secret médical dans certains cas de violence conjugale. Alors qu'on soit clair une bonne fois pour toutes, oui, il arrive que des mecs se fassent taper par leur conjointe, c'est pas inexistant, mais enfin c'est tellement minoritaire que quand on pense violence conjugale, tout le monde part du principe que la victime est une femme, et je veux dire avec raison, puisque les autres cas sont vraiment ultra minoritaires.
Et dans cette minorité-là, il y en a un paquet pour qui c'est sur des violences qui ont été subies par la meuf juste avant, quoi.
Ouais. Et donc c'est bien dans cette perspective, la victime est une femme, qu'il faut comprendre la prise de position de l'ordre des médecins. Alors, suite au fameux Grenelle sur les violences conjugales, quelqu'un a eu la brillante idée de dispenser les médecins du secret médical quand ils se trouvent face à une femme battue. L'argument, c'est le fameux argument de l'emprise psychologique potentiellement exercée par le conjoint violent et qui empêcherait la victime de se défendre et de porter plainte. Sauf que, immédiatement, des féministes ont quand même souligné l'inconvénient pratique évident d'une mesure comme ça, c'est-à-dire que les femmes qui subissent cette fameuse emprise, une fois qu'il n'y aurait plus de secret médical dans leur cas, eh ben, elles auront tout simplement la trouille d'aller voir le toubib. Alors, la relation de confiance qu'elles pourraient peut-être établir avec leur médecin se trouvera pourrie à la base. Or, dans certains cas, hein, je veux pas dire le médecin peut, ou la médecin, peut réellement se trouver en position de parler à la victime. Peut-être une première fois, mais peut-être aussi sur le long terme, parce que la victime peut peut-être revenir voir le toubib, soit parce qu'elle se refait taper, soit parce que pour une angine ou je sais pas quoi. En tout cas, ça peut arriver que... Entre la femme qui s'est fait taper et le toubib, on puisse arriver à une vraie relation de parler, à une vraie relation de confiance, et qui, si ça se trouve, un jour, puisse amener, puisse amener à une réelle décision de la nana de lâcher son mec, de prendre des mesures pour se protéger de lui, peut-être de porter plainte. Le toubib peut se trouver dans cette position, mais bon, comme parfois, d'autres fois, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est souvent un processus qui est long. Mais quand ce processus est accompli, il est réellement accompli. Dans le cas du signalement par quelqu'un d'autre, et s'il y a cette fameuse emprise dont on parle, alors à ce moment-là, on peut arriver à une situation où on va se retrouver avec la victime qui va défendre son mec. Pas exactement le résultat qu'on peut souhaiter. Et en bref, les personnes les plus impliquées dans ce genre d'histoire, une bonne part des féministes, entre autres, ou en particulier, trouvent que cette levée du secret médical est juste contre-productive. Tant qu'on est en parler de ça, on peut en profiter pour regarder qui prend les décisions pour qui, parce que c'est quand même un peu instructif. Et aussi, on regarde le texte de loi tel qu'il est aujourd'hui. Actuellement, en l'absence d'enquête judiciaire ou d'accord du patient, c'est-à-dire s'il n'y a pas des conditions particulières en amont, le secret médical s'impose de façon générale et absolue. Alors bon, générale et absolue, bien sûr, c'est dit dans la loi, mais juste après, il y a un sauf. Donc, le secret médical, c'est général et absolu, sauf pour les mineurs, ou dans le cas d'une personne n'étant pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. En gros, secret médical, sauf éventuellement pour les mômes et les handicapés, et peut-être les vieux hors d'état de quoi que ce soit, c'est-à-dire un peu cinglés ou quelque chose comme ça. L'idée, le principe de la proposition de loi La République En Marche, c'est donc... avec une formulation alors assez neutre et vague et tout ça, c'est qu'en plus des mineurs et des handicapés, on met les femmes avec. L'idée, ce n'est surtout pas d'augmenter l'autonomie des femmes, leur pouvoir de décision sur leur propre vie, c'est encore une fois de les assimiler aux mineurs et aux personnes en incapacité. Et avant de terminer complètement là-dessus, voyons qui prend ces décisions. Comme toutes les décisions, par exemple, et le parallèle n'est pas tout à fait neutre, toutes les décisions de protéger les femmes, c'est-à-dire que là on parle bien de protection avec tout ce que ça a de lourd de protection. Donc toutes les décisions de protéger les femmes en légiférant sur leur manière de s'habiller, qui est un truc dont on entend tellement parler dans les 20 dernières années, sur les circonstances où elles ont le droit ou non de mettre un voile, sur la forme de leur maillot de bain, sur des trucs comme ça. Et ben cette loi, comme donc la loi sur la levée du secret médical, comme les lois sur les vêtements des femmes, passera d'abord par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est 39% de femmes, 61% de mecs. Après, elle ira au Sénat, 70% de mecs, seulement 30% de sénatrices. Et donc, l'info d'aujourd'hui, c'est que l'idée brillante de donner aux toubib un pouvoir direct sur la vie et les décisions de leurs patientes a été approuvée par l'Ordre des médecins. Et l'Ordre des médecins, c'est 74% de mecs. En tout, 15 nanas sur les 58 membres de l'ordre. Alors, les gars, avant de sauver les pauvres femmes, regardez-vous déjà dans un miroir.
Canu Info. Du mercredi.
Et pour finir, une toute petite brève, et on va parler encore de manifestations, mais cette fois-ci au Niger, avec un millier de demandeurs d'asile, pour la plupart originaires du Soudan, qui ont manifesté lundi devant les locaux du HCR, pour le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies à Agadez, dans le nord du Niger. Ils réclament l'accélération du traitement de leur demande d'asile et une réinstallation en Europe. Ils déclarent « On est bloqué ici depuis plus d'un an, on en a marre d'attendre, on veut une réponse à notre demande d'asile. » Les migrants, pour la plupart originaires du Soudan, ont quitté le centre géré par le HCR situé dans le désert et ont parcouru 15 km à pied pour rejoindre les locaux de l'agence onusienne à Agadez, dans le nord du Niger. Donc c'était en gros pour capter la situation. En fait, les gens, ils sont pris en charge par le HCR. Ils sont plutôt mal pris en charge par eux. Et ils en peuvent plus d'attendre, de pas savoir. Et donc voilà, donc ils sont allés demander des comptes un peu à la maison mère, qui était 15 km, ils ont quand même parcouru donc 15 km à pied dans le désert. Ces demandeurs d'asile sont arrivés spontanément dans la région d'Agadez à la recherche de la protection du HCR, en provenant soit de la Libye, soit par des camps gérés par l'agence onusienne au Tchad ou via l'Algérie, après avoir été refoulés au Niger par les autorités algériennes. En gros, les gens ont tenté de passer en Algérie pour arriver en Algérie, et les gardes frontières algériennes les ont renvoyés au Niger. Donc voilà. Donc l'agence onusienne a dit ah oui bon quand même ils exagèrent un peu. On a ouvert le centre. On s'en occupe bien et tout. Les gens, ils disent en fait on en a marre. C'est pas la première fois qu'ils font ça. En septembre dernier, une centaine de migrants avaient violemment manifesté devant le camp humanitaire d'Agadez, en insultant et en jetant des pierres sur une équipe locale du HCR. C'est un peu compliqué pour nous de comprendre ici, mais le HCR, c'est pas parce que c'est l'ONU que c'est complètement des potes. En gros, il y a des moments où ils font des trucs plutôt utiles, il y a des moments où ils sont plutôt dans de la gestion un peu de migrants qui arrange bien les pays européens, en gros. Donc voilà, et en gros ils ont quand même dit la protection là, où l'aide humanitaire allait continuer malgré les manifestations, mais par contre qu'il était hors de question qu'ils donnent l'aide humanitaire aux personnes qui étaient devant le centre du HCR à Agadez, mais fallait que les gens, la condition c'était qu'ils retournent dans le centre plus à 15 km au sud dans le désert. Voilà en gros comment on se passe un peu ça fait des petites brèves, je trouve, sur comment ça se passe, la gestion des migrants hors de nos frontières, et un peu comme le veut l'Europe là, c'est-à-dire de manière externalisée en tout cas. Voilà, on a fini ?
Ah bah ouais, on a déjà fini.
Il est 19h43. Vous allez écouter un quart d'heure de bande continue.
Après notre générique de fin, c'est ça, il vous restera 15 minutes avant l'émission Idée Noire, l'émission de l'UCL.
Et
on essaie plus de dire ce que c'est l'UCL parce qu'on se rappelle plus.
Union communiste libertaire.
Allez.
Et voilà. Et ouais, c'est bon, c'est ça, on m'a dit de l'autre côté. Et du coup, voilà. Et ben, nous, a priori, hein, comme le mercredi prochain, c'est le 25, et que mercredi encore d'après, ce sera le 1er, autant vous dire, on sera pas là, hein.
Ouais,
c'est vrai. On vous abandonne 15 jours. Mais on vous retrouve donc dans 3 semaines. En attendant, je sais pas quoi. Bon courage à vous, et rendez-vous quand même dans les manifs, parce que ça continue, quoi. Et si, il y en a une jeudi, du coup, je sais plus si tu l'avais dit.
Ouais, j'avais dit.
Ah, t'avais dit.
Alors, attends,
prochain rendez-vous, allez, de
prochain
demain.
Prochain rendez-vous de demain, on va pas tous les refaire, mais en tout cas, la manif, c'est 11h30 au Breteau.
Yeah. Allez, bonnes vacances si vous avez des vacances, sinon, bon courage ou bonne grève.
Ciao.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.